Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit-il. Et aujourd'hui, comme chaque année, en ce deuxième dimanche du carême, nous lisons le récit de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce récit qui est évidemment un récit réel. Hein, je vous rappelle que dans l'Évangile, bien évidemment, il y a beaucoup d'actions et de réalités surnaturelles. Les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ en particulier, et puis certains faits comme ce fait de la transfiguration qui est aussi quelque chose de surnaturel. C'en n'est pas moins réel, hein, contrairement à la pensée qui peut prédominer aujourd'hui, pensée moderniste, rationaliste, avec cette distinction entre le Christ historique, qui ne serait qu'un homme, et le Christ de la foi, qui a été inventé par les premiers chrétiens et auquel on a ajouté une dimension surnaturelle, pas du tout. En tant que catholique, nous croyons que le mystère de la transfiguration a réellement existé. Notre Seigneur Jésus-Christ, donc, a pris à part trois de ses apôtres, Saint-Pierre, le chef des apôtres, celui qui l'a nommé lui-même chef des apôtres, Jacques et Jean, hein, les deux frères, et qui étaient préférés de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que oui, notre Seigneur Jésus-Christ avait des préférences. Ce sont les préférences divines, c'est pour nous montrer évidemment la gratuité de la grâce de Dieu, la gratuité de l'amitié divine, et par conséquent, il y a des personnes que notre Seigneur Jésus-Christ a plus aimées que d'autres. Et oui. Vous voyez qu'une fois de plus, on n'est pas dans l'égalitarisme que nous connaissons ou que la société veut instituer aujourd'hui. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ prend Pierre, Jacques et Jean et il monte sur une montagne. La tradition nous dit que qu'il s'agit du mont Tabor. Ce n'est pas dans les évangiles, ça, par contre, mais il y a des traditions qui se sont perpétuées jusqu'à nous, et il ne faut pas, bien entendu, les négliger, au contraire. Sur ce mont Tabor, notre Seigneur Jésus-Christ est transfiguré. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il montre sa gloire. En fait, le miracle, c'est pas forcément la transfiguration. Le miracle, c'est plutôt le miracle permanent qui fait que notre Seigneur Jésus-Christ cache en permanence sa gloire divine, parce qu'en réalité, il est une personne divine, et le corps humain de notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait être que lumineux, on pourrait dire, pratiquement en permanence. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a la vision béatifique en permanence. Et donc, il est comme transfiguré, ses vêtements apparaissent blancs comme la neige, et il resplendit comme le soleil. À côté de lui apparaissent Moïse et Élie, qui représentent la loi et les prophètes. Et les apôtres sont pris d'une sainte terreur, d'une sainte crainte. Ils se prosternent devant notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Pierre, toujours vif d'esprit, et disant presque systématiquement tout ce qui lui passe par la tête, comme on le voit dans d'autres épisodes des évangiles, dit à notre Seigneur, « Seigneur, si vous voulez, on est bien ici avec vous. » On va monter trois tentes, avec quoi on n'en sait trop rien. Il y avait peut-être des branchages dans le coin, ou bien ils se baladaient avec les voiles de leur bateau. Bref, peu importe. Nous pouvons tout imaginer, en tout cas très pratique. Saint-Pierre se dit, on va rester là avec Jésus, Moïse, Élie. Il n'y a pas meilleure compagnie quand même. Et que se passe-t-il ? il y a une voix du ciel, les apôtres se prosternent de nouveau, une voix du ciel dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui je mets toutes mes complaisances », comme même parole que lors du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il lève les yeux, il n'y a plus que Jésus, redevenu « normal », entre guillemets, et ils descendent de la montagne. Jésus leur dit de se taire sur cet épisode. Pourquoi je vous raconte tout ça? Ben, nous allons le voir. Et ils redescendent de la montagne. Jésus leur dit, ne racontez pas cela avant que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, ne soit ressuscité d'entre les morts, ce qui suppose la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et sa passion. C'est un événement qui est réel, mais qui pour nous peut avoir un sens mystique. Quel est ce sens mystique? Pour nous, c'est une éducation à la prière et spécialement à la méditation chrétienne. Et oui, parce que il y a ce fait d'abord de monter avec Jésus, de se mettre hors du tumulte du monde. Nous voulons prier et nous devons prier. Nous voulons méditer, réfléchir sur les vérités de foi, de morale, de la vie chrétienne. Nous devons d'abord nous retirer du tumulte du monde. C'est ce que nous montre notre Seigneur Jésus-Christ. Il prend ses apôtres à part et il les amène sur une haute montagne. Lorsque nous voulons prier, il faut nous mettre en dehors du tumulte du monde. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, nous avons de nombreuses distractions à disposition. Donc par conséquent, la première chose à faire, c'est de veiller à lever ces distractions. Ce ne sont pas uniquement les distractions extérieures, ce sont aussi les distractions intérieures. Se sortir du tumulte du monde, monter sur une haute montagne, c'est aussi savoir laisser au pied de cette montagne nos préoccupations matérielles, savoir laisser au pied de nos prières, de nos méditations, toutes nos préoccupations personnelles, pour se concentrer sur quoi? Sur Jésus. Sur notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la montagne? Comment finalement devons-nous prier? Comment devons-nous méditer? Sur quoi? Sur Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ doit être la principale source de notre méditation. Mais Jésus, il est accompagné ici de la loi et des prophètes, pour nous montrer, bien sûr, qu'il est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Il est celui qui avait été prophétisé. Il est celui qui est le but même de la loi, puisque la loi sert à préparer ce peuple de Dieu, le peuple hébreu, pour qu'il soit apte à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, pour que ce soit un peuple saint. Et à chaque fois que ce peuple qui est censé être saint, qui a reçu tous les moyens de sainteté, s'écarte de la voie droite, nous le voyons dans l'histoire sainte, ce peuple est châtié extrêmement durement, de différentes manières. Il y a des punitions comme des morts, il y a des punitions comme les exils, hein, Babylone, Ninive. Et à chaque fois, le but est de ramener ce peuple à la nuque raide, comme le dit la Sainte Écriture elle-même, ce n'est pas moi qui l'invente, le ramener à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour montrer cette apparition de Moïse et d'Élie que la loi et les prophètes converge vers notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'une fois notre Seigneur Jésus-Christ passé, une fois Mort les témoins de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, les saints apôtres, la révélation est terminée. C'est très important. C'est très important parce que nos méditations, il ne va pas falloir aller les chercher dans des révélations, des prophéties, etc., qui arrivent après notre Seigneur Jésus-Christ, qui tout au mieux ont valeur de prophéties privées, qui pour certaines ont pu être jugées par l'Église comme non contraires. Non contraires, je dis bien, ce n'est pas une approbation positive, c'est une approbation négative. Il n'y a rien contre la foi et les mœurs. On peut croire que cette révélation vient de Dieu, mais c'est tout. L'Église est prudente et c'est l'Église qui juge. Par conséquent, si l'Église a jugé négativement, pour le coup, c'est-à-dire a condamné telle ou telle révélation, il faut la rejeter. Et même si l'Église a approuvé telle ou telle révélation, et quand je dis l'Église, c'est l'Église. L'Église, c'est la papauté, le Saint-Siège. Une approbation au niveau simplement local n'est pas sans valeur, bien entendu, mais n'a pas cette valeur au niveau de l'Église universelle. Donc attention à cela, et ramenons sans cesse notre esprit, notre foi, nos méditations, nos prières vers la parole de Dieu présente en particulier dans les saints évangiles et dans les chez les apôtres, puisque sur cette montagne, il n'y a pas seulement notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas seulement l'Ancien Testament qui vient préparer notre Seigneur Jésus-Christ, Moïse, Élie, la loi et les prophètes, qui sont dignes de méditation, bien sûr, en tant que préparation à notre Seigneur Jésus-Christ, et qui ne vient pas abolir la loi et les prophètes, mais les accomplir. Donc il faut voir tout l'Ancien Testament à la lumière de l'Évangile, et non pas l'inverse, l'Évangile à la lumière de l'Ancien Testament, comme peuvent le faire en particulier les protestants. Oui, parce que c'est ce qu'ils font. Hein, quand les protestants admettent par exemple le divorce, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont citer l'Ancien Testament dans lequel le divorce était permis, mais ils vont scrupuleusement mettre de côté les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont très claires contre le divorce, voyez. Donc ils interprètent le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament. D'ailleurs, le protestantisme est très judaïsant en réalité, quand on y réfléchit bien. Pour nous autres catholiques, ce qui est important, c'est l'Évangile, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, quand les apôtres relèvent les yeux, il n'y a plus que Jésus. Il est tout seul. Moïse et Élie sont partis pour montrer aux apôtres, voilà en qui vous devez avoir confiance, car celui-ci est mon fils bien-aimé. Voilà celui que vous devez écouter. Il est plus important d'écouter notre Seigneur Jésus-Christ que d'écouter Moïse. Il est plus important d'écouter notre Seigneur Jésus-Christ que d'écouter les prophètes même de l'Ancien Testament. Et s'il faut les écouter, car il faut les écouter à la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur cette montagne, il y a aussi les apôtres, en particulier Saint Pierre. Pour notre méditation, pour notre prière, c'est nous montrer à nous autres simples chrétiens la médiation de la Sainte Église catholique, la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. L'interprétation de l'Ancien comme du Nouveau Testament, nous la connaissons par la médiation de Pierre, par la médiation du Saint-Siège apostolique, par la médiation des saints apôtres et de leurs successeurs qui sont infailliblement assistés. Et donc, là aussi, c'est pourquoi nos prières doivent être appuyées sur la prière de l'Église. Nos prières, nos méditations doivent être appuyées sur les textes de la Sainte Église, principalement, pour ne pas errer. Et c'est en raison même de cette foi dans la Sainte Église que, bien entendu, nous rejetons Monsieur Prévost et ses prédécesseurs depuis Vatican II, parce que tout simplement, ils ne se montrent pas comme étant successeurs de Saint-Pierre, ils ne se montrent pas comme étant l'Église. Donc notre foi en eux est impossible, tout simplement. C'est pas un jugement au-dessus d'eux, c'est simplement le jugement de la foi. Si nous avons la foi, nous savons que eux, ils ne l'ont pas. Si nous avons la foi, nous savons que ce qu'ils nous disent, la plupart du temps, ils ne disent pas que des bêtises, c'est vrai. Les personnes qui ne disent que des bêtises sont quand même rares au monde. Il en existe certaines, même publiques. Ils en disent quand même pas mal et régulièrement. Mais évidemment, globalement, nous voyons que ils s'opposent à la foi catholique. Nous l'avons encore vu par rapport à la Très Sainte Vierge Marie, à sa médiation, à ce mystère de la corrélation également. Le catholique doit croire en fait en ces mystères. Et par conséquent, il y a un problème. Donc, on monte sur la montagne, on contemple, on prie notre Seigneur Jésus-Christ, on s'élève du tumulte du monde, on appuie notre prière, notre méditation sur les paroles de la Sainte Église, sur la Sainte Liturgie. Vous savez, je vous invite beaucoup à, pendant ce carême, à méditer sur les messes de chaque jour, sur les évangiles, avec Don de Latte en particulier. Et on serait tenté, quand on a cette habitude de prier, comme les apôtres, de planter la tente et de ne pas redescendre. Parce que, effectivement, on est bien. On est bien avec notre Seigneur Jésus-Christ. On est bien dans la prière. Cela a des vertus même apaisantes, forcément. Et c'est une bonne chose de se trouver bien dans la prière et à réfléchir sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur ce que nous devons croire, sur ce que nous devons faire pour être sauvés. Seulement, nous sommes encore sur terre. Donc, il faut redescendre à un moment donné de cette montagne de la prière. Il faut redescendre avec des bonnes intentions, avec cette force qui nous a été donnée dans la prière, dans la méditation, avec ces bons principes de vie qui nous ont été donnés dans la prière et la méditation. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous avertit discrètement d'abord de rester, de ne pas révéler ce que nous avons pu vivre spirituellement. C'est intéressant, il le dit à ses apôtres, ne révélez pas cela avant que je sois ressuscité des morts. Ben, c'est pareil, hein. On n'a pas à révéler aux autres le bien que la prière a pu nous faire. Cela doit rester entre nous et notre Seigneur Jésus-Christ. Par contre, cette prière, ces moments d'élévation de notre âme vers Dieu doivent faire que nous sommes des gens nouveaux, différents. Après avoir prié, après avoir médité, nous devons être meilleurs. Nous devons agir mieux en tant que chrétiens. Quand Dieu le Père dit « Écoutez-le », Bah, il faut l'écouter. Et écouter notre Seigneur Jésus-Christ, c'est obéir à sa voix dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. Mais cela se fait dans l'effort, dans la souffrance, d'où cette référence discrète de notre Seigneur Jésus-Christ à sa passion, à ses souffrances. Au début du carême, nous disons « Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de Dieu va y souffrir ». Eh bien, si nous voulons vivre en chrétien, nous devons traverser ce tumulte du monde en chrétien. Et cela est une épreuve. Et cela demande de la patience. Et cela demande des efforts sur soi-même. Hein, et ça demande de la mortification, de mourir à soi-même pour être conforme à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans ce bel épisode de la transfiguration de notre Seigneur, nous avons une méthode de prière, une méthode de méditation. Se séparer du tumulte du monde, s'élever en dehors de ce tumulte avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec les saints apôtres, donc la Sainte Église, méditer principalement par conséquent sur ce que nous devons croire, sur ce que nous devons faire pour être de meilleurs disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Le disciple, je vous le rappelle, c'est justement celui qui apprend, c'est celui qui écoute notre Seigneur Jésus-Christ. La méditation, c'est une écoute de notre Seigneur Jésus-Christ, pas une écoute de soi-même, pas une écoute de nos propres pensées, pas une écoute de nos propres idées, pas une écoute des idées de l'un ou de l'autre, mais une écoute de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, dans la loi, dans les prophètes, dans les saints évangiles, dans les paroles des saints apôtres et dans la parole de la Sainte Église. Et troisième point, ben oui, il faut redescendre lorsque nous avons été dans la prière. Déjà, il a fallu monter. Il faut prier, méditer correctement et ensuite traduire tout cela dans notre vie. Donc pendant ce temps du carême, qui est un temps particulier de prière, de recueillement, essayons de nous appliquer à quelques moments de véritable méditation. Essayons d'élever notre âme un peu au-dessus de ce tumulte du monde. Demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, de nous y aider. Demandons aux saints apôtres, à l'apôtre Saint-Pierre en particulier, de nous y aider également, lui qui a vu cette gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous serons certains d'en tirer de bénéfices, des bénéfices pour notre vie quotidienne, pour notre vie de tous les jours, et un peu plus de paix pour notre âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.